c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range, range, range.
Il y en a plus.
Oh non, il n'y a plus de café là.
Attends, on fait après l'émission.
Le papier n'est pas imprimé là.
Les jours.
Oh purée, ce casque qui marche pas.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette atmosphère terrible d'air glaciaire. Et oui, les températures extérieures avoisinent les moins 6 degrés. Peut-être qu'on va se transformer en mammouth ou en rhinocéros laineux. Hein, je sais pas Elsa, mais il n'y a pas de quoi
en
se réjouir.
Blanc.
Hein, en ours polaire. Vu que c'est en voie disparition, c'est bien, on va revenir. En plus, pour les auditeurs qui ne nous voient pas, Elsa, dans le Elsa Gourmand, elle a un gros poncho à poil, on dirait presque un mammouth.
Non, moi, je te remercie. Je ne sais pas quel bruit ça fait, un mammouth.
Je sais pas, tu peux essayer pour voir.
Non.
C'était plutôt une mouette. Ou... Bon, déjà que toi et moi, on se coiffe comme... on est vraiment coiffés en pétard. Si en plus, on est pleine de poils, ça va pas le faire quand même. Hein. Donc, au sommaire de cette émission, Elsa Gourmand va nous faire voyager dans sa revue de presse palpitante. La chemise à rayures, elle sera vraiment maussade. Et oui, à l'ère de la République française, il faut bien s'y attendre. Donc, elle sera pleine d'infos fraîches et en colère. Nous ferons un tour à la loco de Mignot pour une projection de débat sur la dette. Puis, nous rendrons à l'hôpital où les choses vont... très mal, et nous finirons par une manifestation pour l'éducation qui se tient aujourd'hui à Rodez. Nous retrouverons ensuite la fidèle chronique du mercredi, 3A246. Florian Boulet nous emmènera dépoussiérer les archives. En attendant, rien de tel pour commencer la journée en beauté qu'une petite chanson d'amour. Hein Elsa, ça va peut-être nous réchauffer.
Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le yin pour le yang, comme le goût pour la langue, l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le bleu pour la mer, comme un dieu pour la terre, l'un pour l'autre. Crève les yeux tellement c'est clair l'un pour l'autre. Séparés, 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 on ne le pourra jamais. Oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Séparés, 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 on ne le pourra jamais. Oh non, non, on ne pourra jamais les séparer.
Le bonheur qui voyage, et c'est la chanson L'un pour l'autre de Morane. Maintenant, place à Elsa Gourmand pour des nouvelles que je sens réjouissantes.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Et comme à notre habitude, on commence par un petit tour d'horizon des quotidiens de ce mercredi 8 février 2012. De l'art avec la belle une de Libé, la reproduction d'une peinture d'Antonio Tapies, peintre catalan, décédé lundi à Barcelone à l'âge de 88 ans. De l'histoire avec l'Humanité qui propose un numéro spécial consacré à Charonne. Il y a 50 ans, la police de Papon se déchaînait contre les manifestants pour la paix en Algérie. 9 morts. Aujourd'hui encore, le massacre reste impuni. Et c'est donc la photographie des obsèques des 9 victimes le 13 février 62 à Paris qui illustre la une de l'UMA. Du scandale et de la polémique avec le Figaro qui revient sur la séance houleuse à l'Assemblée nationale hier. Le dérapage d'un député PS enflamme la campagne. Après les accusations de Serge Letchimy, député de la Martinique apparenté PS contre Claude Guéant, les membres du gouvernement et les députés UMP ont quitté l'hémicycle. Alors après les propos effectivement de Claude Guéant sur la supériorité de certaines civilisations, Serge Letchimy s'exprimait en ces termes, c'était hier à l'Assemblée nationale.
Montaigne disait « Chaque homme porte la forme entière d'une humaine condition, j'y souscris. Mais vous, monsieur Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation?
Mes chers collègues,
la barbarie de l'esclavage dans la colonisation,
était-ce
une mission civilisatrice? Il existe, monsieur le Premier
ministre, allons, on se calme.
Une France obscure qui cultive la nostalgie de cette époque, que vous tentez de récupérer sur les terrains du Front National.
Asseyez-vous.
C'est un jeu dangereux et une démagogie qui est inacceptable. Il existe une autre, celle de Montaigne, de Condorcet, de Voltaire.
Alors, on a retenu de l'intervention de Serge Letchimy le terme de camp de concentration et de nazi. Hein, c'est ce qu'on entend là en boucle en ce moment sur les radios et les télévisions. Mais si on écoute bien, il fait aussi allusion à la colonisation. Alors voici ce que disait de cela Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais, dans son discours sur le colonialisme en 1950. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviviser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une égression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera ». Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie. Mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus. On l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Chacun fera son idée. Hein. Le Midi Libre revient sur l'arrêt de travail hier d'une vingtaine d'agents hospitaliers de l'hôpital de Millau à l'appel du syndicat Sud Santé. C'est le plan de retour à l'équilibre auquel s'est attelé l'établissement qui inquiète une partie du personnel. 12 lits de médecine et 3 postes et demi ont déjà été supprimés en fin d'année dernière. Et il est maintenant question de supprimer 12 lits de chirurgie, explique le secrétaire de la section syndicale. Ce plan pourrait aussi se traduire par la dégradation des conditions de travail du personnel. La direction n'a pas souhaité s'exprimer après ce débrayage. Vous en saurez peut-être un petit peu dans plus là, dans quelques minutes.
Sachant qu'ils se rassemblent du coup vendredi, là, la direction, rencontre les syndicats.
Je suis malade, parfaitement malade.
Politis nous propose un entretien sur la situation actuelle de l'Afghanistan. Avec Gilles Doron-Soro, professeur de sciences politiques à Paris 1 Sorbonne et spécialiste de cette région. Alors, petit rappel, après les attentats du World Trade Center, le monde entier avait approuvé, au moins tacitement, le lancement de l'opération Liberté Immuable. C'était le 7 octobre 2001, opération qui s'est déroulée donc en Afghanistan. 12 ans plus tard, le bilan est le suivant. 1864 soldats américains y ont trouvé la mort. 974 soldats appartenant à d'autres pays ont eu le même sort, dont 78 Français. Du côté afghan, on compte plus de 16 000 morts, civils, militaires ou policiers. À l'enlisement sur le terrain des armées de la coalition s'ajoute le retournement des opinions publiques. Barack Obama et Nicolas Sarkozy ont annoncé le désengagement de leur pays, en 2014 pour le premier et en 2013 pour le second. Aujourd'hui, explique Gilles Doron-Soro, les talibans sont à peu près partout en Afghanistan. Et l'année 2011 a été une très bonne année pour l'insurrection. L'armée afghane est pour sa part très faible, on compte sans doute moins de 100 000 hommes. Et Hamid Karzai, le président de l'Afghanistan, n'a aucun projet politique et est dans l'incapacité de réformer l'État. La notion d'État, d'ailleurs, qui n'a pas grande signification pour un paysan qui habite loin de Kaboul. Dans ces conditions, que peut-il se passer après un retrait occidental ? Les Américains ne pourront sans doute rien négocier avec les talibans, surtout en cette année électorale. Ça ne plaira pas aux électeurs américains. Non. Karzai, lui, a peu de soutien politique. On risque donc d'avoir une situation de partage du pays avec le sud et l'est tenu par les talibans. Et Kaboul, la capitale, pourrait sans doute être sanctuarisée durant quelques années si les Américains y maintiennent des bases. Mais cela suppose au minimum le maintien d'une aide économique sur le long terme. Pour Gilles Doron-Soro, donc, le bilan de l'intervention occidentale n'est pas brillant. La situation est plus difficile qu'en 2001. Les talibans sont désormais plus en sécurité en Afghanistan qu'au Pakistan, qui les soutient. Et les rapports entre Pakistan et États-Unis s'étant détériorés, les possibilités de règlement diplomatique entre ces deux pays sont limitées. Tiré du courrier international, un article de Süddeutsche Zeitung de Genève qui nous apprend que le renseignement allemand, l'Office fédéral de protection de la Constitution allemande, a mis sous surveillance des élus de la gauche ex-communiste au Bundestag, c'est Die Linke.
Qu'est-ce que tu parles bien allemand, Elsa ?
Ja, épatée. Natürlich. Wunderbar. La presse libérale dénonce un procédé injustifié et anachronique. Hans-Peter Friedrich, membre de la CSU et ministre de l'Intérieur du gouvernement Merkel, justifie cette opération d'espionnage de 27 députés appartenant donc au parti Die Linke. Il faut, dit-il, exercer cette surveillance parce qu'on ne pourrait sinon légitimer le fait qu'on surveille les députés du parti néo-nazi. C'est assez hallucinant. Hein. Le NPD, donc, hein, c'est le parti néo-nazi. Bah voyons, il a bon dos, hein, le principe d'égalité. Le problème, c'est que l'intervention des services secrets dans le débat d'opinion est clairement une atteinte à l'esprit de la Constitution. Et on ne peut pas reprocher à Die Linke d'être un parti dangereux et de vouloir monter une conjuration contre la Constitution. Et puis l'histoire est d'autant plus absurde que l'Office fédéral de protection de la Constitution allemande a longtemps combattu l'espionnage, tout particulièrement celui qui venait de la RDA, hein, l'ex-Allemagne de l'Est, et l'extrémisme de gauche ouest-allemand. Et il n'a pas évolué dans sa vision du monde. Il reviendra, conclut l'auteur de l'article, au prochain gouvernement d'entreprendre de toute urgence une restructuration et un dégraissage de ses services de renseignement d'un autre âge. Ah, il s'en passe de belle, hein, au pays de la copine de Sarko.
Ich liebe dich und du liebst mich. Wir sind zusammen für das Leben.
Toujours dans dans le courrier international un article de Benito Pérez du courrier de Genève sur la TVA sociale, notre TVA sociale, enfin plutôt celle de Sarko. La TVA sociale, titre le journaliste, un boniment qui ne prend pas. Cette mesure entravera d'abord la consommation des Français et donc mettra en difficulté les entreprises. Et les effets sur les coûts de production seront infimes. Bref, la TVA sociale à la sauce Sarko comme rempart aux délocalisations apparaît avant tout comme une piètre riposte à l'avancée des thèses protectionnistes de l'électorat populaire. Et le journaliste suisse de conclure, présenté parfois comme un interventionniste, Nicolas Sarkozy ne perd jamais de vue ses fondamentaux. Il ne franchira jamais la ligne rouge du protectionnisme. La mondialisation, dont la crise actuelle est une expression radicale, constitue pour lui une formidable opportunité de remodeler la société française selon ses valeurs de concurrence et de réussite individuelle. En prétendant jouer sur la variable travail, baisse des coûts, flexibilité, pour accompagner la mondialisation et sauver le modèle social français, Nicolas Sarkozy vend du vent. Mais attention, il nous a habitués à le faire avec talent. Moi, je me demande ce que ça fait le bruit du vent que vend Sarkozy. Comme ça, Zou.
Je sais pas, mais ça sent pas bon. Hein.
C'est la TVA sociale de Sarko.
Quel monde de fous. Donc, sagesse du fou, folie du sage. On ne sait plus très bien où l'on en est dans ce monde de brutes. Peut-être Maxime Le Forestier, lui, il le sait.
Sagesse du fou, folie du sage. Ça commence un soir du mois d'août. Rougeur des joues, folie d'usage, toi, moi, nous. Hé, hey, toi, moi, nous. Hé, hey, folie d'usage. Hé, hey, rougeur des joues. Hé, hey, quelque chose en toi me rend fou. Sagesse du fou, folie du sage. Quand tu viens dans la gueule du loup, la ruse du sioux et son courage, tu veux tout. Hé,
hey, hey,
tu veux tout. Hé,
hey, hey, sabio, sabio.
Prends davantage. Hé,
hey, hey,
rougeur des joues. Hé,
hey, hey, sabio, sabio.
Quelque chose en toi me rend fou. La peur du loup, c'est une image. Quand tu prends tes jambes à mon cou, sagesse du fou, folie du sage, tu t'en fous. Hé,
hey, hey,
tu t'en fous. Hé,
hey, hey, sabio, sabio,
folie du sage. Hé, hey,
hey,
si je t'avoue. Hé,
hey, hey, sabio, sabio,
quelque chose en toi me rend fou. Sagesse du fou, folie du sage, tu t'en fous.
Sagesse de fou de Maxime Le Forestier. Allez, enfilons la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Le NPA propose une soirée projection débat ce soir sur la dette à la loco à Millau. L'hôpital de Millau s'effondre, l'éducation nationale aussi, et se rassemble donc aujourd'hui à Rodez. À 20h30 ce soir, une projection débat sur la dette est proposée à la Loco à Millau. Cette soirée est à l'initiative du NPA, du nouveau parti anticapitalisme. Projection du film documentaire Deptocratia. Iñaki, le chaleureux patron basque de la Loco, nous en dit plus.
C'est un film qui va évoquer les causes et les solutions données par la classe politique pour faire face à sa dette. Et c'est un peu une mise à plat des solutions et des analyses alternatives qu'on peut donner à ce système. Alors, ce qu'on a proposé, c'est que on va regarder les films, que ça dure 75 minutes, et après il y aura un intervenant avec qui on pourra discuter, quoi. En sachant que ce film, il a été vu déjà par des millions de personnes depuis qu'il est sorti, ça fait quelques mois, quoi.
L'intervenant de ce soir sera Nicolas Destart, un militant qui connaît bien la situation de la dette en Grèce, mais aussi en France et dans toute l'Europe. Donc il se fera une joie de répondre à vos questions.
Et voilà. En gros, avec les films, ce qu'on essaye de montrer aux gens, c'est que la dette, ce n'est pas nous de la payer, et qu'il va falloir se bouger, qu'il y a d'autres alternatives que de continuer à souffrir et à se faire exploiter, quoi.
Iñaki, le patron du bar de la Loco à Millau, venez donc ce soir à 20h30 à la projection débat de Deptocratia. Entrée libre et gratuite pour tout le monde, avec possibilité de se restaurer en amont. Hier midi, une trentaine de personnes se sont retrouvées dans le hall de l'hôpital de Millau pour partager un pique-nique de la colère. Albert Pradeil, secrétaire du syndicat Sud, nous en dit plus sur les raisons de cette mobilisation.
Mais ce qui se passe, c'est un rapport au plan de retour à l'équilibre. C'est que le directeur va attaquer les astreintes et attaquer en général l'accord des 35 heures et les journées de RTT sur l'hôpital. Alors les menaces, c'est déjà dans ce plan de retour à l'équilibre, il y a les départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Il y a la quotité de temps, on fait des journées de 7h45, donc qui peut-être seront diminuées. Donc ça veut dire qu'il y aura une suppression de personnel. Tout ça, c'est notifié dans le plan de retour à l'équilibre. Hein. Je veux dire, ils mettent, mettons, en chirurgie... Il y a 2,5 postes qui disparaissent, enfin, voilà, c'est bien précis, quoi.
L'hôpital de Millau est sur la pente raide une fois de plus, avec suppression de postes d'une part et d'une autre, réduction d'offres des services à venir. La direction économise comme elle peut, mais les choses ne s'arrêtent donc pas là.
Dans un premier temps, il y a eu des fermetures de lits aussi, donc de 12 lits en médecine, donc c'est-à-dire depuis le 1er décembre. Donc ça veut dire que l'offre de soins, disons aux usagers, va être sérieusement perturbée, et puisque c'est déjà mis en place. Et dans ce plan de retour à l'équilibre, donc il y a 12 lits de chirurgie qui vont aussi disparaître et qui vont être transformés en un hôpital de semaine, c'est-à-dire faire que de l'ambulatoire. Si vous voulez, on est rentré dans une logique économique, hein, donc c'est-à-dire que l'ambulatoire, c'est ce qu'ils disent, hein, ça rapporte, donc Millau va faire ça.
Ajoutez à cela que depuis 2 ans, les salaires dans la fonction publique sont complètement gelés. Les choses sont en suspens donc, et selon ce qu'annoncera le directeur à la rencontre prévue ce vendredi, d'autres mobilisations seront peut-être envisagées par la suite.
On a un comité, il y a le CTE, un comité technique d'établissement, donc vendredi. Donc on ne sait pas si ce que va nous annoncer le directeur lors de ces CTE. Si vous voulez, c'est un deal qu'ils ont passé avec l'ARS, quoi. En gros, si on vous débloque l'argent pour réintégrer le personnel de Saint-Com, vous savez, donc réintégrer, et la construction de 2 blocs supplémentaires, puisque pour absorber, si vous voulez, l'activité de l'ambulatoire qui s'est fait à Saint-Com, pour construire 2 blocs de plus donc sur le site de Millau. Le deal, si vous voulez, c'est que voilà, on vous donne ces moyens si vous acceptez le plan de retour à l'équilibre. Il faut savoir qu'ils sont allés le négocier, le directeur et le président de la CME, c'était, je crois que c'était le 13 décembre, à l'ARS. Donc l'ARS a donné son accord, et donc, mais si vous voyez, c'est la suite logique. Maintenant, le directeur, l'avant-dernier CTE, il a dit qu'il se donnait 1 an pour le mettre en place, mais ça, on n'a aucune certitude, quoi. Si vous voulez, c'est faire des économies, c'est-à-dire sur le personnel, ils vont disparaître. C'est bien sûr, ceux qui vont être touchés, c'est toujours les contractuels. Enfin, on suppose que c'est ça, hein, gros, ça c'est pas sûr, mais c'est surtout aussi l'offre de soins qui va être réduite par rapport à la population milloise. Vous êtes pas sans savoir qu'à Millau, il y a une population vieillissante, donc et par rapport à la médecine, donc forcément ça va réduire l'offre de soins. C'est pas la fonction première de l'hôpital d'être rentable, même si vous savez qu'on est soumis à la tarification à l'acte. La tarification à l'acte, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la T2A. En 2011, l'activité sur l'hôpital a été positive de 3,25%. Et malgré ce, on est en déficit budgétaire. Alors, donc, on nous a déjà supprimé, on nous a déjà pris il y a 2 jours. Donc, si vous voulez, même les 2 jours qu'on nous a pris, ça n'a pas été bénéfique en termes financiers pour l'hôpital, quoi. Donc, si vous voulez dire, c'est toujours travailler plus, mais pour gagner moins, quoi.
C'était donc Albert Pradey, le secrétaire du syndicat Sud, et nous en saurons plus sur l'avenir de l'hôpital ce vendredi. Donc, aujourd'hui, à 14h, une manifestation est organisée devant l'inspection d'académie à Rodez. Parents d'élèves, élus et enseignants vont s'opposer une fois de plus aux nouvelles réformes qui touchent au cœur de l'éducation. Dominique Gouat, la présidente de la FCPE, nous en dit plus sur cette mobilisation.
C'est le comité départemental de l'éducation nationale qui regroupe les élus, les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves. Nous devons siéger à l'inspection d'académie pour entériner les décisions prises par l'inspection d'académie pour la rentrée 2012, du premier degré, c'est-à-dire l'école maternelle et primaire. Nous ne sommes pas d'accord, et ce n'est pas nouveau, avec les décisions prises ou qui vont être prises par l'inspection d'académie, dictées par le rectorat. Donc ça fait déjà plusieurs fois que nous manifestons devant l'inspection d'académie. Et demain, nous avons pris la décision de boycotter cette réunion. Donc les parents ne siégeront pas. Nous ferons savoir à l'inspection d'académie en lui lisant une motion préparée par les parents d'élèves. Et nous appelons les parents d'élèves, les élus municipaux et les syndicats, des syndicats d'enseignants de manifester avec nous demain devant l'inspection d'académie à 14h. Nous ne sommes pas contents, les parents ne sont pas contents, les enseignants ne sont pas contents, les élus ne sont pas contents, parce que depuis plusieurs années, on nous supprime au fur et à mesure des postes dans les écoles primaires, puisqu'en ce moment, nous décidons ce qui va se passer pour le premier degré. Et c'est inacceptable. D'année en année, on nous restreint le nombre d'enseignants, on ferme des écoles, on ferme des classes. Et voilà, que vont devenir nos enfants ?
Souci donc entre classes surchargées, enseignants plus que débordés, manque de remplaçants. Les dispositifs RASED qui ont été mis en place pour aider les élèves en difficulté n'existent plus, disparaissent dès cette année. Rien ne va plus.
Et pour la rentrée 2012, tout ça s'accentue, comme tous les ans nous nous disons ça sera mieux peut-être l'année prochaine, et tous les ans c'est de pire en pire. On espérait bien que l'inspecteur d'académie révise sa copie. Ceci dit, on sait très bien qu'il fait avec ce que le recteur lui donne, et le recteur fait avec ce que l'État lui donne. Donc voilà, on peut pas imputer sa seule responsabilité. L'inspecteur d'académie, je sais que quelquefois il partage nos idées. Malgré tout, voilà, c'est lui notre interlocuteur proche. Donc nous lui faisons savoir par nos manifestations, par les motions que nous lisons lors de nos réunions, nos communiqués de presse, les passages à la radio, à la télé quand nous pouvons. Voilà, nous faisons savoir que nous ne sommes pas contents. Il est hors de question qu'on supprime des classes, qu'on supprime des enseignants. Voilà, nos enfants, c'est nos enfants qui en pâtissent. Et ça, c'est hors de question.
Dominique Gouat, présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves, vous donc donne rendez-vous aujourd'hui à 14h à Rodez. Donc pour tous ceux qui nous écoutent en rediffusion à 17h, c'est trop tard, tant pis.
Απόψε τη κιθάρα μου, τη στολή σαν κορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου, τη στολή σαν κορδέλες. Και στα καδούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Και στα καδούνια περπατώ για τις όμορφες κοπέλες. Απόψε να μη κοιμηθείς παρά να καρτερέψεις. Απόψε να μη κοιμηθείς παρά να καρτερέψεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και έπειτα να πέσεις. Να ακούσεις την κιθάρα μου και έπειτα να πέσεις. Για σε τα γιούλια μάζεψα, για σε και τα λατάνθη. Για σε τα γιούλια μάζεψα, για σε και τα λατάνθη. Απόψε ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου τη χάθη. Απόψε ονειρεύτηκα κι ο ύπνος μου τη χάθη. Για βγες στο μπαλκονάκι σου να δω την ομορφιά σου. Για βγες στο μπαλκονάκι σου να δω την ομορφιά σου. Κι εγώ με το τραγούδι μου να κλέψω την καρδιά σου. Κλέψω την καρδιά σου. Στο παράθυρο δε φανείς, για σένα κι αν πονάω. Στο παράθυρο δε φανείς, για σένα κι αν πονάω. Εγώ με την κιθάρα μου τα βάσανα ξεχνάω. Εγώ με την κιθάρα μου τα βάσανα ξεχνάω.
La voix mélodieuse d'Elisa Vela, un CD de la semaine. Alors, je vais essayer de dire le titre en grec de la chanson. Apopstin ki taramou. Alors, on les sort chaque semaine pour vous dépoussière. Elles sont pleines de souvenirs de petits trésors, les archives. 3A246, bienvenue dans l'ancien univers saint-africain.
3A246. Chronique de la maison de la mémoire.
Aujourd'hui, dans cette chronique, je voudrais vous parler des archives en tant que document, en tant que source. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut y apporter? En commençant peut-être tout d'abord par la diversité des archives, parce que le mot archive, en fait, ça regroupe un peu tout et n'importe quoi. Alors pour nous, la majorité, c'est des archives administratives. Donc ça va être des enquêtes, des comptes rendus, des états, des choses comme ça. Il y a beaucoup aussi de correspondances. Je parle là pour les archives publiques, pour monter les dossiers ou entre les différentes institutions. Comme j'en ai déjà parlé et que j'en reparlerai sans doute, il y a beaucoup aussi de périodiques. Et là, qui sont particulièrement intéressants parce que c'est souvent les sources dans lesquelles il y a un aspect humain qu'on ne retrouve pas dans les papiers administratifs qui sont généralement plus statistiques ou autres. Et il y a aussi plein d'infos qu'on trouve nulle part ailleurs, des petites choses très ponctuelles ou très originales, mais qui du coup révèlent souvent aussi l'ambiance d'une époque ou les préoccupations, ce genre de choses des gens, quoi. Ensuite, on trouve aussi l'iconographie, qui est particulièrement intéressante. Alors, ça peut être les cartes postales, les photos, les plans, les dessins, les peintures, etc. Particulièrement intéressante parce que là, ben, c'est pareil, ça révèle un moment de la vie d'une ville ou de certaines personnes, mais qui ne sont pas forcément les plus simples à retrouver. Et enfin, il y a les objets qu'on récolte aussi auprès des gens, et qu'on met, nous, dans le sous-sol en exposition, et qui aussi sont toujours assez intéressants, parce que les gens, même pour les objets les plus anodins, ont toujours des histoires à raconter autour, des anecdotes ou voilà, des moments de vie qu'on trouverait nulle part ailleurs, quoi. Donc là, pour le coup, on ne pourra pas trouver forcément dans les journaux, même si c'est plus intéressant, les journaux locaux, et qu'on ne trouve pas donc autrement. On conserve tout ça à la Maison de la Mémoire. Alors au départ, ça s'est constitué à partir d'un fonds documentaire auquel petit à petit ont été rajoutés les registres d'état civil que l'on peut communiquer aux gens pour la généalogie. Le cadastre napoléonien, qui est particulièrement intéressant aussi pour connaître les lieux, même si c'est pas toujours évident de l'utiliser. Et puis ensuite, ça a été toutes les archives municipales dans tous les domaines possibles et imaginables. Essentiellement 19e siècle, avec un tout petit peu à la Révolution. Et ensuite, de temps en temps, on a, ça peut arriver, des organisations ou des institutions qui nous connaissent et versent volontairement des fonds. Je pense notamment l'an dernier à l'hôpital qui a donné les plus anciennes archives qu'ils avaient. Et du coup, nous, ça a complété ce qu'on avait. C'est essentiellement du 19e et c'est franchement très intéressant. Et après, il y a aussi les dépôts ou les dons de particuliers qui ont chez eux des vieux papiers, qui ne savent pas forcément quoi en faire ou ce qu'ils contiennent, et qui du coup nous les confient. Nous, après, on les traite et on leur dit ce qu'il y a dedans, au moins pour info. Et on s'en sert régulièrement parce qu'il peut y avoir plein de petites infos qui concernent la vie de Saint-Afrique, du Saint-Africain, etc. Pour pouvoir utiliser toute la variété des archives et surtout retrouver chacune des infos originales qu'elles contiennent, on opère sur elles un traitement, donc un classement. Après, on les regroupe, alors pour les archives, on va dire publiques, on les regroupe par série, selon le thème, la période parfois. Et à l'intérieur de chaque série, donc de chaque thème, il y a des sous-séries pour essayer d'avoir un classement qui soit relativement fin pour arriver facilement à l'info, mais pas non plus trop fin pour pas s'y perdre. Et ensuite, pour les archives, on va dire privées, c'est-à-dire celles qui nous sont déposées ou données par des gens, là, en général, on respecte le fond tel qu'il est, comme on nous l'amène, c'est-à-dire qu'on ne le dispatche pas dans différents endroits, on le conserve tel quel et en créant à chaque fois un fond monsieur un tel, monsieur un tel. Voilà, et on fait tout ça en respectant les normes législatives de communicabilité des documents, c'est-à-dire selon les informations que les archives peuvent contenir, il peut y avoir des délais de communication. Alors soit c'est communication immédiate, quand c'est des archives banales, on va dire, et à partir du moment où il y a la moindre info, par exemple médicale, ne serait-ce que se casser la jambe, enfin une fracture ou que sais-je, là après c'est par exemple, en l'occurrence ce sera 120 ans après la date de naissance, ou 75 après celle de décès. Enfin voilà, il y a plusieurs normes à respecter et qu'on met en œuvre. Et là, en ce moment, il se trouve qu'avec un géographe qui s'appelle Jean-Pierre-Henri Azéma, on s'intéresse au moulin à Sainte-Afrique, mais au moulin dans le sens seule source d'énergie qui a existé jusque à peu près au début du XXe siècle, au passage à l'électricité. Donc c'est-à-dire, en gros, un moteur qui pouvait faire marcher toutes les machines possibles et imaginables dans tous les domaines d'activité. Pas seulement, comme on peut le penser, la farine et l'huile, ou même le textile qui commence à être connu, mais il y avait pas mal d'autres activités, comme pour aiguiser les faux, les faucilles, enfin les outils. Et après, il y avait aussi des activités assez originales que beaucoup de gens ne doivent pas connaître, comme la fabrication de chocolat, par exemple. Il y avait un moulin à Sainte-Afrique qui était dédié à ça. Un autre, possiblement le même, qui fabriquait des pâtes alimentaires, au début du siècle aussi. Donc plein de petites activités. On a même retrouvé, et ça c'était assez... on ne s'y attendait pas du tout, un moulin qui servait à la fabrication de chapeaux. On savait qu'il y avait des gens qui fabriquaient des chapeaux à partir de la matière première qu'ils achetaient ailleurs, donc les cloches en feutre. Mais là apparemment, ça, c'est un moulin qui fabriquait la matière première elle-même, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Et donc, dans le cadre de cette enquête, en fait, on a pas mal d'informations dans les diverses archives. Mais malgré tout, souvent, on n'a que des petites infos lacunaires, comme ça, il nous manque pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'on a lancé un appel à documentation, à témoignage auprès des gens d'un vaste Saint-Africain, qui serait susceptible d'avoir chez eux toutes sortes de documents. Ça peut être des vieux papiers d'archives, genre actes notariés, parce qu'ils avaient de la famille qui, à un moment, ont eu un moulin ou travaillaient dans un moulin. Mais ça peut être des photos aussi, parce qu'on n'a pas retrouvé de carte postale de moulin, alors qu'on en a trouvé en l'espace d'un siècle, entre 1800 et 1900, en gros 37, rien que dans Sainte-Afrique, mais pas une seule carte postale. Donc si des fois des gens, je sais pas, ça peut être à l'occasion d'un rassemblement de famille ou d'une fête, derrière, on voit un moulin, ou je sais pas, une visite, ou on peut imaginer ce qu'on veut. Ça peut être des dessins, des plans, des papiers, des lettres avec l'en-tête du fabricant. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça peut être des catalogues, ça peut être même des... Ça serait pas mal aussi. Ce serait des boîtes ou des emballages des différents produits qui étaient fabriqués. Donc voilà, si les gens disposaient de documents ou de témoignages aussi, quand ils étaient petits, ils sont allés au moulin... Et ils ont quelque chose à raconter. Nous, ça nous intéresse. Donc, ils peuvent nous contacter à la Maison de la Mémoire, venir ou passer un coup de téléphone et on prend un rendez-vous. Et éventuellement aussi, comme il vient assez régulièrement, pourquoi pas se rencontrer avec Monsieur Azéma. Donc voilà, si des gens ont envie de participer à une sorte de travail de mémoire collectif, on les attend et on les recevra avec grand plaisir.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Si des gens possèdent chez eux des témoignages, des archives d'époque, de vieilles photographies ou bien encore de simples souvenirs de ces moulins, contactez la Maison de la Mémoire. Bon, vous avez remarqué, cette matinale, elle est quand même assez morose. Donc avec les filles, Chloé et Elsa, on a eu une idée, on s'est dit que vous allez vous faire une petite gâterie, donc champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage. Lutin, luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait un bon dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes, cyniques et corrompus passe grief de leur peine. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Vous aurez sûrement reconnu Champagne de Jacques Higelin. Il est temps de se dire au revoir. Dans cette émission, vous avez pu entendre la palpitante revue de presse d'Elsa Gourmand. Une chemise à rayures à véronaise dynamique et révoltée. Un tour dans la poussière des archives avec Florian Boulet, dans la chronique de la Maison de la Mémoire 3A de 146. Côté musique, vous avez été réchauffé au contact de Morane avec sa chanson L'un pour l'autre. Maxime Le Forestier nous a livré sa vision avec le titre Sagesse de fou. Et enfin, dans les CD de la semaine, la grecque Elisabella nous a chanté Apopstine, guitare à mou. Si vous avez un petit coup de cœur pour le site de la semaine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Radio Sainte-Afrique et, pour ne pas oublier, donc Champagne de Jacques Higelin. Merci à notre petite coccinelle Chloé à la technique. Demain, on est jeudi, alors on laisse la place au tonton flingueur. Vendredi, nous ne sommes pas là. Disons que c'est Radio Larza qui nous propose une émission sur la soirée boucherie prévue ce samedi à Saint-Rome-du-Tarn. On se retrouve donc lundi. Bonne journée à toutes et à tous.